studio mobile, arrêtez du loin, ici et là, poum poum poum. Ça se déplace, ça se met. Ça se met sur le dos, dans la caisse. Ici. Et là.
Natacha, Aurélie et
bonsoir.
Hélène, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir plutôt, oui. Et donc, toutes les trois, vous faites partie de l'atelier Terre au sein de la Buenas Ondas. Natacha, tu peux peut-être nous rappeler un peu l'historique, puisque tu en es l'initiatrice de cet atelier Terre.
Oui, de cet atelier et de l'association Buenas Ondas. Tout a commencé à Buenas Ondas quand, pour la première fois, on a fait un événement. C'était, on soutenait la radio Diwa. Tu t'en souviens certainement, tu étais là magnifiquement en femme, c'était magnifique. C'était
oui, génial. J'avais tourné des crêpes, je me souviens.
Ah oui, c'est vrai, bah justement c'était juste à côté de l'atelier Terre, que petit à petit on a refait, que j'ai refait avec les habitants de la maison à l'époque. Et là où on a installé un four à gaz, j'ai eu des dons, j'ai eu des dons d'un four à gaz, d'un four d'un tour à pied.
C'était pas un don, mais...
C'était un peu comme un don, une très belle occasion, parce qu'on a... Ouais, qu'on a acheté, mais pas si cher, quoi, tu vois. Et un tour à pied et un tour électrique. Du coup, ça m'a permis de faire grandir l'atelier, de proposer des ateliers pour enfants, pour adultes. Et puis, petit à petit, on a eu un nouveau projet au sein de l'asso. On a fait la Buena Aventure pour rendre la nature accessible à tous. Et du coup, par ce biais-là, j'ai fait des ateliers avec des personnes en situation de handicap. Et du coup, j'ai grandi comme ça. Et entre-temps, il y a Hélène qui est arrivée.
Alors Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Et donc toi, tu es arrivée il y a environ 3 ans, hein, dans l'année qui a suivi la création de l'atelier. Et quel a été ton apport dans cet atelier Terre ?
Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le tour à électrique, ce qui est marrant, c'est que la personne qui nous l'a donné, prêté, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on l'a. Et ben, en fait, il l'utilisait pour les enfants. Et en fait, nous, on l'utilise pour les enfants. Et les grands, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui font du tour électrique en général, ça je le sais quoi. Et là sur ce tour on peut mettre les enfants, et ils sont assez hypnotisés, c'est rigolo. Ils ont les bras pile de la bonne taille.
Et ça centre.
Ça centre direct. Ouais. Il se trouve que quand je suis arrivée, Natacha s'est mise à faire des bébés. Ouais. Du coup... Voilà. Du coup, moi, je suis restée à l'atelier et j'essayais d'avoir une production personnelle. L'idée, c'était que je sortais des études. On nous a payé ces études parce qu'on est censé devenir potier, s'installer. Donc voilà, j'essayais de sortir une production. Mais sauf qu'une production, c'est beaucoup, beaucoup, tout ça. Du coup, c'est pas évident.
Tant de place à la créativité, parce que toi, tu étais en recherche.
Voilà, donc j'ai préféré faire plein de recherches sur pas mal de trucs différents en poterie et faire de la transmission, en fait, finalement.
Hélène a passé 3 mois au Maroc pour apprendre...
La poterie primitive, là où ce n'est pas que de l'archéologie, mais le quotidien, quoi. En fait, avec les femmes du Rif, dans le Nord...
Les techniques que tu as acquises et que tu pratiques ici.
Voilà, que j'essayais ici avant, j'avais fait un petit stage ici. Mais du coup, j'ai voulu aller voir les personnes pour qui c'est le quotidien, tout simplement, c'est juste normal. Et apprendre un peu l'arabe pour parler avec elles, parce que c'est des milieux très... En fait, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler, parce qu'en fait, la poterie des femmes dans le nord du Maroc, dans le Rif, en fait, elle est en voie de disparition, parce qu'en fait, les Marocains l'achètent pas parce qu'elle est pas émaillée, donc ils la sous-estiment. Dans tout le Maroc, j'ai dit, je vais voir la poterie, je vais dans le Rif, on m'a dit, mais non, va à Safi, va à Fès, tu vois. Et quand je leur parlais des femmes du Rif, ils disaient, c'est pas terrible, quoi. Et du coup, et en plus, c'est les femmes. C'est-à-dire tout le reste du Maroc, c'est les hommes qui font la poterie, là où c'est les femmes. Et en fait, donc les Marocains n'achètent plus. C'était des poteries utilitaires que le plastique et le métal remplacent. Donc en fait, il n'y a que les Occidentaux qui achètent les poteries du nord du Maroc, les poteries d'origine berbère. Elles travaillent comme on travaillait, comme on imagine que les gens travaillaient au néolithique. Elles travaillent comme il y a 2000 ans. Elles ont encore des motifs et des formes qui ressemblent à l'époque byzantine et tout ça là. Et voilà, il y a plein de techniques différentes. Et avec outils, sans outils, du coup, j'ai été apprendre deux techniques différentes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est des personnes qui n'ont jamais donné de stage. Du coup, c'était... Là, les jeunes, là-bas, ne veulent pas apprendre ça, ce métier, vu que c'est plus un métier, ils ne gagnent pas leur croûte avec. Donc, Il y a deux personnes, une belge et une française, qui vont là-bas, qui achètent des poteries et qui viennent les revendre en Belgique et en France. Mais à part ça, il y a un peu rien, quoi. Du coup, moi, j'étais à deux doigts d'essayer de faire un documentaire ethnologique. Je sais pas, je me disais, qu'est-ce que...
C'est une perche à la radio, d'ailleurs, hein, pour un petit voyage au Maroc.
Enfin, en tout cas, il y a un truc à faire là-bas.
Et la technique de cuisson est laquelle là-bas, alors ?
Ben alors, du coup, simplement dans un feu. Comme une grande fête, la manière dont elles en parlent. Là, c'était en hiver, j'y étais en hiver, donc les poteries n'étaient pas assez sèches. Et sinon, il y a un endroit qui est incroyable à Ouedlaou, où chaque femme est potière et a son propre four. Et elle cuit sa poterie comme elle cuit son pain, et elle fait sa poterie comme elle fait la cuisine. Et chaque femme est potière. Et en fait, je regardais leurs gestes et je me disais, ouais, ça, c'est facile, quoi. Et en fait, c'est là que j'ai essayé de le faire. Et là, en fait, il y a des gestes que, après... avoir essayé pendant 5 jours, j'arrivais toujours pas à les faire les gestes exactement comme elle, quoi. J'arrivais pas, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Et ça, c'est un truc que les intellectuels peuvent pas comprendre.
Enfin, moi, je vois. Et du coup, notre sculpture collective éphémère qu'on a fait ici, là, lors de ce festival à Valdrome, eh ben, en fait, on se rend compte qu'en fait, les gens, ils se retrouvent devant la technique. Salut Java. ils se retrouvent bloqués par la technique et bloqués justement par leur cerveau. Et là, du coup, le truc, c'est on lâche le cerveau et on rentre dans la terre. Et la terre, elle nous dit quelque chose. On la maîtrise pas forcément. C'est comme le bois, comme elle nous parle, elle nous dit quelque chose. Donc, il y a des fois des gens dans mes ateliers, quoi, qui ont une idée, ils veulent faire un truc. Et je leur dis, d'accord, tu veux faire un truc, mais la terre, elle te parle aussi. Et tes mains aussi. Et des fois, ce que tu projettes dans ta tête, en fait, eh ben, ça passe par tout ton corps, ça finit dans tes mains, ça finit dans la terre, et c'est plus que tu avais imaginé. Et il faut savoir lâcher. Et je pense que le tour, moi, je ne pratique pas le tour, parce que je ne suis absolument pas potière. Pas encore, quoi, mais comme on se forme toutes les trois, c'est assez génial, c'est... un truc
de partage.
De partage et
d'échange.
D'échange.
Et d'amour. Et de cœur volant.
Alors, ma question, Aurélie, toi, t'as amené quoi alors au sein de cet atelier?
Ma personne, déjà. Ouais. La fille. Attention. Moi, j'ai amené quoi? En fait, on va prendre la question à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis revenue dans le DIY il y a 3 ans pour mettre au monde ma dernière petite. Et voilà, j'arrivais d'ailleurs, des Cévennes. Et donc, j'ai installé mon atelier dans ma cave. Bref, voilà, un atelier que j'ai eu de Luce Nebrins, qui est une artiste incroyable qui m'a formée aussi à faire les sculptures collectives éphémères et qui fait de l'art... l'art brut, en fait, qui est une grande artiste, voilà, une grande amie. Et
du coup, par rapport à ce qu'on disait avant, sculpture collective éphémère,
sculpture collective éphémère, ouais,
et qui permet, les gens, ils viennent faire tâter la terre avec nous, là, et on a 200 kilos de terre, et en fait, on leur dit, ils disent, qu'est-ce que vous allez en faire, la première question, et après, vous en faites quoi? Et là, on dit, eh ben, on va l'écraser avec nos pieds.
Après, viens et on la détruit ensemble.
On va tout remettre dans des sacs, et dans le sens, vas-y, fais, te pose pas de questions. Voilà ce truc de lâcher le mental. En fait, ce projet, il nous plaît aussi pour ça.
Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est marrant parce que souvent, on va nous mettre à l'atelier enfant. Et voilà, parce que c'est une activité d'après-midi, vraiment, sur une demi-journée. Alors, on nous colle à l'atelier enfant. Nous, on aime bien des coins tranquilles, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous faire venir. On aime bien avoir un petit coin peinard. Là, ici, c'était super. On était à côté de la LPO. C'était trop bien.
Et du coup, il y a plein d'adultes qui viennent aussi et tout le monde se met à créer ensemble, tous les âges, tous les niveaux.
Voilà,
c'est
ça. Tout le monde. Et ça libère de tout complexe, en fait, parce que c'est un univers qu'on construit tous ensemble, du début à la fin. Il y a des gens qui nous aident à tout sortir jusqu'au bout. Il y a des gens qui nous aident à battre la terre à la fin, à les remettre dans les sacs. Et de bout en bout, c'est une fête.
Et on invite vraiment les adultes parce que l'argile n'appartient pas aux enfants. Hein. Et du coup, en fait...
Et c'est une ressource, sa ressource...
De mettre de l'argile dans toutes les mains, en fait. C'était peut-être, moi, je me suis rendu compte à un moment que peut-être mon but dans la vie, c'était plus de mettre de l'argile dans toutes les mains que de faire des objets.
Et les gens, ils arrivent, et les parents arrivent, et leur gamin se précipite sur la sculpture et commence à tout toucher, ils rentrent tout de suite dedans. Et les parents sont là, pour certains, « Ah non, vas-y, touche pas, casse pas !» Et on leur dit, « Mais attends... »
Collectif, en fait.
En fait, déjà, bah non, en fait, vas-y, détruis tout, reconstruis. Les parents, ils nous regardent avec des yeux ronds, « Mais il va tout casser, bah ouais !»
C'est pas grave, là, pour
c'est pas
fois,
grave.
Il a le droit.
Zéro contrainte,
ouais.
Que... Ouais. Voilà.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir.
Et
voilà.
Ça permet de lâcher prise et de vraiment se laisser aller et de vider la tête. Ça vide la tête, quoi. Parce que du coup, on pense plus à rien. On est en train de faire notre petit cœur volant en terre, par exemple. Et,
un dragon. Une cathédrale.
Et, voilà, on fait tout ce qu'on a envie et du coup, ça nous vraiment, ça libère l'esprit, quoi.
Et c'est épuisant. Enfin, je veux dire, là, nous, on est rincés. Hein. C'est quelque chose qui.
Est-ce qu'il y a un pendant comme le Caramantran?
Carmentran.
Oui.
Ah.
Ouais, tu sais, le bonheur.
Une catharsis, quoi. Ouais, il y a un côté catharsis, mais c'est dans la joie, quand même. Oui. Enfin, il n'y a pas de revanche, en fait.
Il n'y a pas de jugement, comme...
Il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de jugement. C'est juste du bonheur.
Ouais, grand bonheur.
Et en parallèle de ça, vous pratiquez aussi
en fait,
le land art.
Moi, ce que je vois, c'est que l'argile, c'est un truc alchimique, c'est un processus alchimique. On cuit à 1000 degrés, 1200 degrés, on transforme le caillou mou en caillou dur, enfin, on transforme la terre en pierre.
Pour l'éternité, d'ailleurs. Hein.
Pour l'éternité.
C'est une lourde charge.
Et en fait, là, on fait des choses et tout, et on les écrase et on les recycle. En fait, le recyclage de la terre, c'est aussi ce qui se passe dans la nature tout le temps. Et en fait, il y a ce truc de... Et au commencement, était le monde et paf. Il y a un processus qui est avec la terre qui est quand même.
Et Hélène s'est trouvé la terre dans la nature. Elle est la chercher, la prendre sur place. Elle connaît les coins dans le coin.
Et comment tu les connais, ces coins? C'est en explorant le territoire ou alors tu as des notions de géologie pour les trouver?
Je me suis un petit peu intéressée, mais c'est pas si facile, parce qu'en fait, il peut y en avoir un peu partout. En fait, si tu veux cuire, il faut pas que ton argile soit calcaire, donc c'est mieux d'aller dans des endroits où les terrains sont non calcaires. Donc c'est vrai qu'ici, on est un peu foutu, donc je vais quand même jusqu'à Diolfi pour la cuire. Mais par contre, dans le coin, c'est juste, on m'a dit, tu sais quoi, à Boulk, il y a eu des coulées de boue. Hop, je suis allée à la coulée de boue de Boulk, et j'ai récupéré la terre, la coulée de boue de Boulk. Et après, il y a Natacha qui me dit, c'est à Justin, avec Mika, qui me disent que c'est à Justin qu'ils ont été chercher. En fait, en général, quand il y a une route qui a été faite, tout de suite, la falaise, elle est creusée. Donc, tout de suite, t'as la terre à nu et tu peux rapidement voir si c'est de l'argile. Et donc, à Justin, c'est la terre avec laquelle ils ont fait les enduits de l'atelier, en fait. Et quand même, ce que Aurélie a apporté, nous apporte, c'est toute la partie art nature avec plein de choses.
Ouais, trop bien.
Et donc, au sein de la Buena Sandas, il y a aussi la Buena Aventure. Oui. Et vous travaillez aussi avec eux ou...
Évidemment.
Oui, et donc...
Nous sommes partie prenante à 100%. La Buena Aventure.
Vous y participez. Et le contexte du land art que vous pratiquez, c'est dans ce contexte de la Buena Aventure.
Eh bien, par exemple, là, on est en train de mettre en place une balade artistique à Chant-de-Duc, qui est un lieu à Borrières. Qui est adapté, en fait. Et donc, pour nous, c'est un super site pour installer justement une balade qu'on pourra pratiquer en joëlette pour les personnes non valides. Et dans la mixité, toujours, en fait, c'est vraiment notre leitmotiv. Il n'y a pas d'histoire de ségrégation, mais pas les handicapés d'un côté et les valides de l'autre. Enfin, voilà, c'est pas...
L'idée, c'est de la mixité.
C'est la mixité dans la joie, l'amour et la joëlette.
Bravo.
Et voilà, et par exemple, voilà, c'est un parcours qu'on est en train de mettre en place. J'espère qu'il verra le jour cet été, là, c'est l'idée. Pour justement permettre de créer un contexte artistique dans la nature, avec la nature, pour la nature. Et en fait, c'est une histoire de communion quelque part, c'est se donner le droit et ouvrir des portes. En gros, c'est ça pour... C'est vraiment des très très beaux moments, partagés.
En famille.
En famille. Souvent c'est des familles.
C'est des familles, mais justement des familles qui se mélangent, quoi. parce qu'on est souvent une bonne dizaine, voire une vingtaine, quoi, entre 10 et 20.
Et que pour porter une joëlette, il faut être au moins 4.
Ouais, c'est ça, au moins 4.
En fait, nous, on est des performeuses, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le lieu, il nous parle. Donc, selon ce qu'il y a sur le lieu, en fait, on l'explore, on s'amuse, on communie. Et
comme quand on était enfant.
Ouais, pareil.
C'est vrai.
Ouais. Pareil. Sans jugement, sans préconçu, justement. Après, on est... Enfin, voilà, pareil. Hélène et moi, on a fait les Beaux-Arts, donc on a été formatés. Mais... Natacha, Et du coup, quelque part, notre revanche là-dessus, c'est de se permettre de se déformater. Voilà. De s'ouvrir des portes. Voilà. Et c'est vraiment ça l'idée globale. C'est même quand on fait par exemple du papier végétal, c'est en fait le leitmotiv, c'est vraiment de partir de la matière brute pour arriver à l'œuvre d'art. C'est quoi le cheminement? On part de fleurs, on part de plantes, on va les chercher dans la nature, on part de mousse, et comment à la fin en fait on le présente aux autres pour leur faire partager en fait ce moment de création qu'on... Parce que c'est un vécu, la création. C'est pas quelque chose de fini, de figé. Les œuvres d'art, elles évoluent tout le temps. Même la Joconde, même toutes les œuvres d'art qui sont enfermées dans des musées, elles continuent à vivre, en fait.
Et cette pratique de l'expérimentation, de création de matière, vous la mettez en avant aussi ou alors c'est...
Ouais, c'est... Elle fait des sculptures de dragons magnifiques, vraiment extraordinaires. C'est des bêtes fantastiques.
Ouais.
Des griffons. Hein,
des griffons, ouais. D'or.
D'or et d'argent,
ouais,
non,
qui,
de
qui
terre.
Qui apporte l'amour et la joie, justement.
Et la joëlette.
On les pose chez nous, moi j'ai une femme nue qui lit un livre, franchement.
Elle a un cul.
Elle a un cul, mais elles ont toutes un cul, de toute façon, ces sculptures magnifiques, quoi.
Ouais, bon, après on va croire que je bloque sur les fesses,
non,
mais
non,
juste,
tout,
je sais pas les
tout,
faire autrement.
Non, mais comme ça, elles sont magnifiques.
Ouais, voilà, bah non, moi en fait, je suis tombée, j'ai fait les Beaux-Arts.
Ouais.
J'ai pris ce que je pouvais prendre des Beaux-Arts, enfin voilà, ce qui m'offrait. Dans la rébellion, les crêtes et l'anarchisme à fond. Et du coup.
Tout dépend des écoles peut-être.
Ouais, moi j'étais à Angers et à Angoulême, et en fait, j'étais en rébellion.
Oui.
Et du coup, ça me servait à partager un message politique, vraiment très didactique en fait. Qui laissait pas la place à l'imaginaire parce que bah enfin voilà, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans du coup. Voilà. Et j'ai eu ma première fille et d'un coup en gros j'avais envie de créer autre chose que des choses didactiques et puis dures en fait, qui mettaient le nez dans la merde, quoi. Et je me suis dit, mais si j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose, en fait le but de tout ça, de toute cette cogitation intellectuelle, c'était qu'en fait on vive heureux, tout simplement, avec les contraintes, mais des contraintes qu'on aurait un peu plus choisies. Et en fait, je me suis dit que moi, j'avais plus envie de faire quelque chose qui soit formel, mais quelque chose qui apporte de la joie. Et donc, en fait, mes sculptures, elles dansent, elles rigolent et... Et elles apportent, j'espère, de la joie là où elles se trouvent après. Après, moi, en tant qu'artiste, j'ai 150 projets qui attendent et qui se construisent tranquillement. Je vais participer à Village Vivant. Tu sais, les... voilà.
Je suis, ouais,
ouais, voilà. Et donc, Village Vivant, c'est refaire un petit peu les vitrines, en fait, de Kiki, le Palais des Viandes, là.
Ouais,
ouais. Tu vois, qui était mon prof de judo quand j'étais petite. Et bon, il a cassé sa pipe et maintenant ça appartient à quelqu'un qui veut le vendre. Du coup, là-dedans, je vais faire une installation qui s'intitule Let's Dance. Et c'est que des animaux fantastiques qui dansent. Voilà,
ouais,
voilà, c'est
ça,
mon projet artistique. Voilà. Donc, du coup, la Buenaventure, et ben voilà, c'est un grand moment de partage à tous, à toutes. L'atelier il sera ouvert cet été. On peut. Enfin, il est ouvert, hein, voilà, il continue, voilà, et donc on peut nous solliciter pour des ateliers en famille, entre amis.
Avec des personnes en situation de handicap, des âgés, des pas âgés, des bébés, tout est possible en fait. On peut concocter des demi-journées ou des journées, des projets particuliers. En fait, on est assez ouvert quand même, c'est les bonnes ondes, hein, ne l'oublions pas.
Et du coup, voilà, en question art nature, moi j'anime un atelier art nature tous les mercredis matin avec des tout petits parents-enfants. Et du coup, pour donner une idée, en fait, j'invente un atelier art nature chaque semaine. Du coup, tout est possible, en fait. Dehors au maximum. L'idée, c'est d'être dehors.
Voilà. Mais t'as pas parlé un peu des techniques d'art nature que tu as développées
Des techniques d'art nature, bah, y a les peintures végétales. Moi, de temps en temps, j'organise des stages aussi pour adultes et pour enfants d'apprentissage des techniques. Comment on fabrique soi-même sa propre aquarelle? Comment est-ce qu'on transforme un coquelicot en encre? Comment on fait pour le conserver? Voilà.
En fait, dans notre projet à nous trois, il y a l'aspect humain avec la Buenaventure. Là, par exemple, on s'intéresse à l'art-thérapie, par exemple, parce que quand même, on se pose des questions. On a rencontré des publics avec différents handicaps l'été dernier, avec Natacha. On a partagé nos expériences. On s'est dit, voilà, comment on a réagi, nous, comment on a trouvé des solutions, qu'est-ce qu'on a vécu, là où on a trouvé qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, il y a une recherche à cet endroit-là.
Avec quelqu'un qui est tétraplégique, Natacha, elle a développé ça aussi. Enfin, aussi par l'expérimentation, ça se crée. Par exemple, comment faire découvrir l'argile à quelqu'un qui ne peut pas bouger du tout? Eh ben, on lui met de la terre dans les mains, elle lui fait sentir, elle fait une petite boule, peut l'écraser s'il peut. Enfin, après, avec un public, voilà.
La boue, l'argile est à liquide, semi-liquide.
Avec des gens qui.
On t'a pas entendu.
C'est bien aussi, c'est bien. Donc avec l'argile, je disais semi-liquide, liquide dur, enfin voilà.
Toutes la barbotine,
oui, tout ça,
on patouille. On s'en fout de partout.
Avec les petits aussi, ils adorent. Et avec les personnes âgées qui peuvent avoir de l'arthrose ou de l'arthrite, ça fait beaucoup de bien aussi, ça soigne. Ça permet que tout est possible à tous les âges en fait. Et vraiment, ce qu'on aimerait développer de plus en plus, c'est vraiment la mixité aussi dans ces ateliers, parce qu'on fait de la mixité au sein de la Buenaventure avec les balades en joëlette. Et vraiment en atelier aussi de trouver la mixité, d'amener des bébés, des enfants avec des personnes en situation de handicap. Ils ont peut-être jamais rencontré des personnes en situation de handicap et d'essayer de créer ensemble sur une œuvre collective ou des œuvres personnelles. Et avec les anciens aussi, les grands-parents, les parents.
Et tout le monde met la main à la pâte parce qu'il n'y a pas de pression en fait.
Ouais, c'est ça, on essaye vraiment
comme on est.
Tous, et nous pareil, comme des enfants, ouverts en fait à l'autre.
Alors, tout ce que vous venez de raconter, vous pouvez le voir sur un site internet.
Oui, buenaventure.org, en fait, tout simplement. Buenaventure.org.
Si vous voulez.
À Minglon. En plus, on est à Minglon, dans le centre, cœur même du Diwa. Venez nous voir, franchement, ça vaut le coup. On a un jardin pédagogique qui grandit depuis qu'on est arrivé il y a 7 ans. Et là, du coup, maintenant, il est adapté. Et il y a des spectacles avec des femmes nues et aussi habillées, alors, ne vous inquiétez pas. Voilà, de temps en temps, en fait, peut-être une fois par saison, peut-être on va faire un événement, reprendre un peu les événements comme on faisait avant. On va participer aussi au Cuir Moustache bientôt, hein, c'est bientôt avec la radio d'ailleurs.
On va participer,
on va soutenir. Mais non, on va venir. On soutient à la radio cette année, l'année prochaine on reprendra nous et peut-être vous viendrez dans le soutien à nous. Enfin voilà, et refaire des événements portes ouvertes un peu à la Buenas, justement à Minglon. Ouvert à tous, hein, toujours des familles. Et cette fois, vraiment pour encore montrer ce qu'on va faire à l'automne. À partir de l'automne, on va mettre en place des ateliers réguliers, une fois, deux fois par semaine, pour toute l'année scolaire, on va dire. Et des stages aussi.
Votre création personnelle, vous avez la possibilité de la continuer de votre côté?
De quoi?
En tant qu'artiste.
Tu peux répéter la question? Plasticienne,
moi j'ai repris. J'ai laissé un peu. J'ai arrêté les animations que je faisais beaucoup l'année dernière pour, au retour du voyage, me recentrer. Donc, dans une idée de. Voilà, il y a des choses qui sont en train de naître. Et je pars plutôt dans le bijou. Et parce qu'il y a une liberté de création. Et puis la poterie, c'est un métier, je me vois pas dedans. Mais je vais quand même faire des gobelets. Voilà. Et il y aura des sculptures abstraites, mais bon, on ne peut pas imaginer gagner sa vie avec des sculptures abstraites, c'est difficile quand même. Du coup, les bijoux, c'est bien aussi.
Si.
C'est chaud, hein. Moi, j'ai contacté mes sculpteurs préférés pour leur demander s'ils gagnaient leur croûte. Ils m'ont dit non. Des super sculpteurs.
C'est dur.
qui font des trucs de fou, quoi. Ouais, voilà. Du coup, moi, dans l'idée de gagner sa vie, je me dis, bah, je vais tenter les bijoux, quoi. Ouais, Jeff Koons, voilà. Mais moi, je parlais d'abstrait, là. C'est ça. En figuratif, ça marche.
Ouais, la question c'était, est-ce que j'ai le temps encore pour créer? Et ben, je crée le vendredi de 9h30 à 16h15. Et voilà. Donc, du coup, ça répond à ta question.
Voilà. Et bien, sur ce, Natacha, Aurélie et Hélène, merci d'avoir donné un peu de temps. Et
merci,
bonne
à toi. Ouais.
Merci à toi. Attendez. Ah. Juste, venez sur notre site internet nous soutenir. Oui. Pointaventure.org.
Et aussi, on a ouvert
un appel aux dons.
Un appel aux dons.
Et oui, on a besoin de votre aide pour continuer nos super activités adaptées à tous et pour tous. La nature accessible à tous.
Mélisande et Romain, bonjour.
Salut.
Salut.
Alors tous deux, vous êtes faites partie de l'association Buenas Ondas et qui propose un projet à l'adresse de personnes en difficulté de locomotion en particulier, un projet qui s'appelle Buenaventure. Donc ce qui permet à ces personnes d'avoir une accessibilité sur des sites en relief. Comment en êtes-vous arrivé à cette proposition ?
Pour faire un petit historique de l'association, donc l'association Buenas Ondas, où on est basé à Minglon, et à la base c'était une association qui faisait plutôt de l'événementiel et du culturel. Et suite à l'accident de l'un de nos membres fondateurs et à la motivation de certaines personnes de l'association, on a décidé de se recentrer plutôt sur le handicap et l'accès à la nature à tous.
Ce qui était déjà un peu le projet de base de l'association en fait, parce qu'on est tous animateurs. principalement en fait. Et avant de faire des événements, on avait déjà ce projet-là en place et de l'ouvrir à tout public en fait. Voilà.
Alors pour ça, vous vous êtes rendu compte lors de cette création de projet qu'il y existait, il existait une demande d'une certaine population à cet accès à la montagne et qui n'était pas justement satisfaite peut-être.
Voilà, donc elle n'était pas très satisfaite, ou quand elle l'était mais à des prix exorbitants. Donc pour des personnes handicapées qui n'ont pas forcément des moyens démesurés, bah c'était trop, quoi. Et donc nous, on fonctionne sur un principe de tarif adapté à tous les budgets. Donc vraiment, on ne veut pas que le prix soit un frein aux personnes qui voudraient bénéficier de nos activités, quoi.
Comment êtes-vous arrivé à créer et à structurer ce projet ? Il a fallu exercer des achats de matériel particulier pour transporter les personnes. D'ailleurs, on appelle ça des jouellettes, hein,
c'est ça,
sièges
ouais.
roulants. Pour la montagne. Ouais.
Donc ça, c'est vraiment une partie du projet, que d'emmener les personnes en situation de handicap dans les joëlettes dans la montagne. Mais à côté de ça, on a aussi d'autres ateliers qu'on propose, entre autres un atelier terre et art nature, et un jardin adapté au fauteuil. Et du coup, on fait du jardin sensoriel, donc c'est plutôt un jardin pédagogique, on va dire. Et des visites à la ferme, avec des fermes accessibles aux fauteuils roulants aussi.
Et pour ça, ce projet qui a été monté, vous avez eu votre bonne volonté et le soutien de qui ?
Donc pour ce qui est du matériel, on a eu la chance d'avoir des donations de jouellettes, par exemple. C'est d'autres assos qui nous les ont léguées, ou même le village de Chanduc, qu'on remercie, qui nous a aussi donné des jouellettes. Et puis pour ce qui est du soutien, donc on fonctionne, il y a un fonds de dotation qui s'appelle Greenlink, qui nous a aidés depuis 2 ans déjà, et donc qui nous aide bien pour financer toutes ces activités et pour garder un prix adapté à tous les budgets. Et puis ensuite, on fonctionne aussi sur une levée de fonds de particuliers, quoi, des dons. Si vous allez sur notre site buenaventure.org, vous cliquez sur faire un don, et là vous serez redirigé sur Hello Asso, et vous pouvez faire un don, et il y a même des petits cadeaux si vous faites certains montants.
Alors, c'est promenade en jouellette, mais c'est aussi ouvert à d'autres, à tout le monde, ces promenades. D'ailleurs, ça a un peu impliqué certaines personnes à aider le déplacement des jouellettes aussi. Hein. Ça fait partie un petit peu du périple.
Voilà, alors le principe, c'est vraiment de faire de la mixité. En fait, pour nous, la jouellette, c'est un outil pour créer de la mixité et du lien et du dialogue entre les gens, et même faire de la sensibilisation, en fait. Parce qu'on ouvre nos balades à tout le monde. Donc si une personne handicapée nous réserve une balade, notre principe, c'est vraiment d'ouvrir à tout le monde. Donc on propose, on donne une date et tout le monde est le bienvenu. Et tout le monde peut participer à la randonnée et un peu aider aussi à la jouellette, voir comment ça se pilote, comment ça fonctionne, les problèmes que ça engendre, tout ça. Quoi.
Alors pour lancer une promenade, vous partez d'une thématique parfois, ou alors c'est juste partir à l'aventure dans la nature ?
Alors pour ça, il y a Benjamin, qui est notre accompagnateur moyenne montagne, qui a réalisé des circuits, en fait. Donc je crois qu'il y en a 5-6, non ? Un truc comme ça ?
Voire plus, ouais.
Voire plus. Et après aussi, il peut se déplacer et proposer des balades aux alentours de chez les gens, quoi. Enfin, voilà, en fonction de là où ils habitent et tout ça. Il y a un projet qui me tient à cœur, on n'en a pas encore réellement parlé entre nous, mais c'est une petite idée qui m'est venue. J'avais envie de faire une balade Joëlette, Cueillette, Biquette et peut-être même Clairette. Voilà, donc du coup, ça serait tout mêlé, quoi. On aurait une personne en Joëlette qui pourrait cueillir des plantes avec les biquettes qui nous suivent et puis finir par un petit pot de Clairette, par exemple. Voilà. Et il y avait aussi une idée de faire des balades en Joëlette avec une thématique art nature aussi.
Vous en avez déjà pratiqué un petit peu de ça ?
Alors, moi, je ne suis pas la spécialiste du land art. Ça, c'est plutôt Aurélie, Natacha et Hélène, qui font partie aussi de l'atelier Terre et qui proposent aussi du land art, quoi. Voilà. Donc, autour de ce qu'on peut trouver dans la nature, des fleurs, des plantes, les arbres, des pommes de pin, et de monter voilà, des mandalas peut-être, ou des mobiles naturels, enfin voilà.
Et
décorer la nature.
D'accord. Et c'est des œuvres in situ, éphémères.
Éphémères, ouais, tout à fait.
Que vous ne détruisez pas vous-même.
Non,
c'est la nature.
C'est la nature qui reprend le dessus après.
Vous prenez des photos de ces constructions, de ces projets, par exemple.
En ce moment même, au festival de Val-Drôme, on a Aurélie et Hélène qui proposent une sculpture collective éphémère, donc avec de la terre argileuse qu'elles ont ramenée. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire ensemble et de faire une œuvre éphémère, tous ensemble.
Comment ça se passe alors, une journée en sortie avec la Buenaventure?
Alors, si c'est une sortie joualette, par exemple, bien, on se donne un rendez-vous, que ce soit à Fondurle ou sur le plateau de Solor ou n'importe où. Et donc, on amène la joualette et on prévoit aussi un certain nombre de bénévoles pour que, dans tous les cas, la balade puisse se passer. Et ensuite, c'est ouvert à tout le monde, donc aux familles, en fonction de la difficulté. Les gens viennent ou ne viennent pas, mais le principe, c'est vraiment d'ouvrir à tout le monde et qu'on passe un moment ensemble. Donc ça peut être sur une ou deux heures, ou alors sur une demi-journée, ou sur une journée, ou encore sur trois jours, comme on fait avec l'événement Diwa sur un plateau, qui va se passer le 16, 17 et 18 juin. Voilà. Et donc qui sera une traversée des hauts plateaux, du col de Rousset jusqu'à Châtillon-Diwa.
Et puis on peut peut-être présumer qu'il y a différents niveaux de promenade, ou alors par rapport aux capacités physiques, je parle en général même, parce que vous accueillez tous les âges, que ce soit à partir d'enfants jusqu'aux personnes âgées.
Exactement.
Et il y a quand même des niveaux de difficultés différents, je suppose, en proposition.
Voilà, donc par exemple, on a fait une balade il y a notre première balade de l'année début mai, avec une personne qui était assez âgée, je pense qu'il avait 70 ans à peu près. C'était la première fois qu'il faisait de la joualette, et donc on a organisé une petite balade autour de chez lui. Et donc cette personne-là, il a tellement aimé la joualette qu'il en a refait une seconde au plateau de Solor, et maintenant il s'est inscrit à Diwa sur un plateau, et à 70 ans, c'est pour la première fois qu'il va pouvoir aller sur le Glandas.
Et puis, on a abordé le début de journée, mais dans la continuité, ça se passe comment? Alors, il y a un temps de repos aussi, il y a des temps de prise de repas, il y a des choses comme ça. Et d'observation aussi, de prendre un temps pour observer, écouter la nature.
Oui. Alors on essaie toujours. Si c'est sur une journée, forcément on va faire une pause le midi et faire un pique-nique tous ensemble. Et sinon, on essaie d'avoir un goûter quand même pour pouvoir prendre un temps ensemble, se poser et voilà, partager un temps différent, quoi.
Tout à l'heure, vous disiez donc que vous organisiez ces randonnées, on peut dire, avec des gens qui travaillent déjà sur les pistes. C'est des choses qui s'élaborent bien en amont pour préparer ces circuits.
Oui, voilà, parce que la joualette, c'est un outil qui est très bien, qui passe dans beaucoup de chemins, mais pas partout non plus. Donc ça demande à notre accompagnateur Benjamin de faire des repérages, en fait, et de voir si vraiment la balade passe partout. Et même, comme pour Diwa sur un plateau, de carrément recréer les sentiers pour pouvoir passer, quoi.
Et puis, est-ce que vous avez eu l'oreille de collectivités locales ou du département pour ce projet?
Alors, je voudrais passer une petite annonce aux communes du Diwa, parce que sur les 51 communes du Diwa, il y en a 4 qui sont... Alors, il faut les citer quand même. Donc, Lèche en Diwa,
Penne-le-Sec,
Recoubo et... qu'on les oublie pas. Aïe, aïe, aïe.
Barnave,
voilà. 4 communes sur les 51 qui nous ont donné, en tout et pour tout, alors après on leur en veut pas, hein, parce que c'est sympa, mais 150 euros. 150 euros, il faut savoir que ça représente une demi-journée pour une balade en joualette. Voilà, c'est ce que ça coûte à notre association. On fait un appel aux communes du Diwa. Nous, on vous a envoyé des dossiers cette année. On a eu très peu de réponses de votre part. Donc, on est là, on va vous recontacter. Et puis, si ça vous intéresse, contactez-nous aussi.
Au niveau du département, même au niveau de la CAF, vous avez des contacts pour ces activités?
Alors, on va lancer un partenariat avec le SCDD. Et donc, en proposant des balades régulières, une fois par mois ou peut-être deux fois par mois. Et donc, pour les personnes qui en seront bénéficiaires, ça sera, une partie sera prise en charge par la CAF, effectivement. Mais nous, on a très peu de financement public pour l'instant. Alors, c'est vrai qu'on est une jeune asso, qu'on n'avait pas forcément la structure et le vocabulaire nécessaire pour toucher des subventions. Mais voilà, je pense que vu ce qu'on fait, on évolue, on travaille dessus et voilà, on est dans la bonne direction. Donc on espère que les collectivités nous donneront des sous-sous dans on le futur rien. Proche.
C'est toujours la niaque.
Voilà.
Et toi, Mélisande, ton activité dans cette structure
Alors, moi, du coup, je me suis orientée plus sur le jardin, justement. On a fait un jardin adapté, comme je disais tout à l'heure, donc terrassé, accessible au fauteuil roulant et tout ça, qui est axé sur le sensoriel, beaucoup, parce qu'on accueille aussi des personnes déficientes. Voilà, et ça marche très très bien, le sensoriel. Et après, à côté de ça, on fait aussi un peu de transfo, quoi. Du coup, un peu de cuisine avec ce qu'on a dans le jardin. L'année dernière, on a fait du sorbet tomate basilic, des petits gâteaux à base de plantes comme la lavande ou le thym, voilà. Et à côté de ça, en plus, je propose aussi des visites à la ferme. Donc cette année, l'année dernière, on avait une ferme qui nous accueillait. Cette année, on en a trois maintenant. Voilà. Donc,
qui sont situées dans le Diois.
Dans le Diois. Il y en a une à Beaumont, la ferme des Sagnes. Il y a la ferme de Messagendre à Minglon et la ferme des Perbeaux à Ausson. Donc plantes aromatiques et médicinales. Et pour les deux autres, c'est de l'élevage, caprin et ovin.
Alors je suppose que dans les périples ou les organisations de parcours, vous rencontrez certainement du monde ou même une population vivant sur les lieux ou sur les sites. Est-ce que ça éveille en eux un intérêt à savoir ce que vous faites et de voir même de développer peut-être des partenariats à venir aussi ?
Bah, tout à fait. En fait, moi, j'ai et je travaille toujours en élevage. Ponctuellement, on va dire, parce que maintenant je me suis vraiment plus orientée dans l'animation. Et du coup, les gens, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, se rendent compte de notre projet aussi. Du coup, c'est génial, quoi. Et ça tisse des liens réellement. Et c'est des choses qu'ils auraient peut-être pas fait, mais que le fait qu'on les sollicite pour ça, voilà, ils passent le cap, quoi. Donc c'est chouette.
Et donc, sur le territoire de Valdrome, vous avez déjà une implantation de parcours ou alors vous êtes plutôt sur d'autres territoires ?
Alors, sur Valdrome, c'est vrai qu'on ne vient pas très souvent parce que ça fait un peu loin. Mais donc là, pendant le Festival Drôme, le but pour l'association, c'était de rendre accessibles les balades qui étaient proposées pendant le festival. On a ramené deux joëlettes et puis voilà, pour que si quelqu'un, une personne à mobilité réduite voulait participer à ces balades, que ça soit possible.
Voilà, et puis sachant qu'il y a un souci au niveau du village de Valdrome de redynamiser un peu ce site, c'est peut-être une activité ou un partenariat qui pourrait s'ancrer dans l'avenir.
Peut-être.
Alors les sirops, c'est pareil, que c'est toi, c'est ta préparation.
Alors les sirops, et il y a aussi des poteries en fait, qui sont aujourd'hui à Valdrome sur le stand pour les vendre en soutien à l'association. Donc c'est moi qui les ai fait, les sirops. Natacha, Aurélie et Hélène ont fait des poteries, Buenaventure. Et l'idée, voilà, c'est de repartir avec un petit souvenir de la Buenaventure à la maison et d'avoir participé au projet, quoi.
T'as un choix de combien de sirops en parfum ?
Alors aujourd'hui, il y a trois parfums. Il y a le sirop de sauge, le sirop de menthe et le sirop de coucou.
C'est une préparation qui peut s'opérer sur une seule journée ?
Oui, oui, ça se fait en très peu de temps, ouais.
Voilà. Et donc ça, c'est des ateliers que vous proposez sur des périodes précises, pendant la saison.
Pendant la saison, oui, en fonction des propositions, des demandes aussi. Moi, je fais aussi des ateliers baume. Du coup, un baume de soins. Après, il y a de la peinture végétale, il y a de la cuisine sauvage. pour les ateliers de Mélisande aussi, du coup, en partenariat avec la Buenaventure.
Bah, merci en tout cas. Bonne soirée.
Ouais, merci.